France Musique. Musique et moi.
Jean-Pierre Changeux.
Priscille Lafitte, France Musique.
Après le déchiffrage du génome humain, la recherche scientifique nous permet aujourd'hui d'espérer mieux comprendre le cerveau et ses fonctions, aussi bien au niveau de l'individu qu'à celui de la société. Tout ce qui appartenait traditionnellement au domaine du spirituel, du transcendant et de l'immatériel est en voie d'être matérialisé, naturalisé et, disons-le tout simplement, humanisé. Est-ce là la mort de l'homme ? Bien au contraire. J'y vois plutôt comme un prodigieux ferment de vitalité. Une meilleure connaissance de l'homme et de l'humanité permettra de valoriser la diversité des expériences personnelles, la richesse des différentes cultures, la multiplicité de leur conception du monde. Ce savoir favorisera la tolérance et le respect mutuel sur la base d'une reconnaissance d'autrui comme un autre soi-même appartenant à une même espèce sociale issue de l'évolution des espèces.
Les barricades mystérieuses de François Couperin, dont la beauté persiste au travers des siècles. Alors, est-ce la même émotion que lors de sa création en 1717 qui s'empare de nous ce matin, Jean-Pierre Changeux? En tout cas, peut-être entreperçoit-on avec ces barricades mystérieuses des paysages cérébraux communs à beaucoup d'auditeurs aujourd'hui comme hier. Est-ce que ce sont les mêmes paysages d'après vous, Jean-Pierre Changeux?
Oui, c'est un paysage neuronal, si j'ose dire, en ce sens que cette écoute, cette perception musicale, elle entre dans notre cerveau, elle y est analysée. Évidemment, elle évoque des expériences, des mémoires propres au sujet. Et il va de soi qu'au XVIIe siècle, l'expérience de chacun n'était pas la même que celle que l'on a aujourd'hui du monde qui nous entoure. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans cette musique, c'est qu'elle elle rappelle le travail du scientifique, avec ce côté obstiné, tout le temps renouvelé, répété. Hélas, le travail scientifique est un travail difficile, qui demande beaucoup d'obstination, mais qui fait alterner imagination et démonstration. Et c'est un peu ce va-et-vient qu'on retrouve dans ces barricades mystérieuses, toujours aussi émouvantes pour l'auditeur.
Est-ce que vous avez réussi à percer le mystère de ces barricades? Vous parlez dans le texte introductif que vous nous avez lu de l'immatérialité, de spiritualité, de transcendance.
Oui.
Est-ce qu'en analysant ce morceau, on en perd son mystère?
Non, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. Ça, c'est peut-être aussi l'expérience et le regard du scientifique. Parce que oui, notre vocation de neurobiologie, de chercheur sur le cerveau, c'est bien de distinguer le subjectif de l'objectif. Mais le subjectif peut lui aussi être analysé objectivement, si vous voulez. Donc, il y a à la fois notre expérience personnelle, individuelle, et liée à toutes les mémoires que nous avons accumulées au cours de notre expérience de notre vie, et aussi, si vous voulez, cette notion que si on était capable d'examiner notre cerveau pendant qu'on perçoit cette musique, eh bien, on trouverait des principes communs entre tous les cerveaux, en dépit de cette variabilité individuelle. Donc, il y a évidemment dans la construction elle-même, dans l'écriture musicale elle-même, des moyens que le compositeur utilise pour créer l'émotion chez le sujet et nous permettre, nous, scientifiques, d'aborder leur analyse, parce qu'on est encore très loin de tout comprendre dans notre cerveau. C'est une machine d'une extraordinaire complexité, mais quand même, on l'aborde. Mais je pense que on peut l'aborder sereinement. C'est surtout ça que je voudrais dire. Et ne pas en être effrayé. Et peut-être, encore une fois, permettre de mieux nous comprendre. Et nous comprendre entre nous, vous et moi, par exemple.
Alors, tout en faisant votre portrait musical ce matin dans Musique et moi, nous allons tenter ensemble de comprendre comment notre corps accueille la musique, réceptionne les signaux auditifs, les signaux d'une harmonie, d'une mélodie, d'un rythme, comment il en tire une émotion. Vous êtes donc neurobiologiste, Jean-Pierre Changeux, spécialiste du cerveau, professeur honoraire au Collège de France et à l'Institut Pasteur, grand amoureux des arts et particulièrement de la musique, ami de Pierre Boulez et auteur de nombreux livres, notamment L'homme de vérité que vous avez cité en introduction, La beauté dans le cerveau chez Odile Jacob ou encore Les neurones enchantés, Le cerveau et la musique, un livre tiré d'échanges avec deux compositeurs, Pierre Boulez et Philippe Manoury. Nous allons tenter de vous suivre dans le labyrinthe des recherches en neurobiologie et aborder avec vous peut-être les questions qui se posent encore sur les capacités musicales de notre cerveau. Nous aurons besoin de l'aide de Jean-Sébastien Bach, bien évidemment, de Johannes Brahms, d'Igor Stravinsky, d'Olivier Messiaen et de Pierre Boulez. Et tout d'abord, il nous faut revenir aux sources de la musique classique occidentale avec le chant grégorien, puisque c'est précisément cette musique qui vous a éveillé, vous, personnellement, à l'art de l'écoute.
Veni Creator Spiritus, mentes tuum visitans,
fans divi vos in iris cae
Le cœur des moines de l'abbaye de Ligugé que vous avez choisi, Jean-Pierre Changeux, vous avez grandi dans un milieu musical pour entendre ces moines?
Enfin, j'ai surtout grandi dans une famille très simple. Ma mère était standardiste, téléphoniste, et mon père technicien du Gaz de France, qui était éloigné de, je dirais, de toute culture scientifique et artistique proprement dite, mais qui avait réussi à créer un milieu familial très uni, très étroit. Et dans ce milieu qui était catholique, où je suis né, mes premières émotions musicales étaient essentiellement liées à la religion. Et donc, c'est à la messe de 11h à Saint-Sulpice que j'ai entendu l'orgue joué par Marcel Dupré à l'époque, qui m'a profondément touché et bouleversé. Et donc, enfant, j'ai été imprégné de ce chant grégorien qui est aussi une, je dirais, une expression très ancienne, certainement antérieure même au christianisme, qui nous vient peut-être des Grecs, et qui est monodique et qui a un pouvoir assez intéressant de relier entre eux ceux qui chantent. Il y a un côté communautaire dans le chant grégorien, et c'est ce que l'on peut appeler le religuérer, relier ensemble religion en quelque sorte. Et je pense que de ce fait, la musique est un aspect très très intéressant de l'homo sapiens des origines. Et je pense que la musique s'est développée en parallèle avec le langage, mais ne se confond pas au langage. Il y a peut-être eu des points communs, mais il essaye de véhiculer au sein de la communauté, de la société, une espèce de message de réconfort, qui rassure, qui consolide le lien social, sans nécessairement utiliser des mots, du langage.
C'est-à-dire que dans notre cerveau, nous percevons à des endroits différents la musique et le langage?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, oui, disons, pour être très caricatural, l'hémisphère droit s'intéresserait plutôt à la musique et le gauche au langage, chez la plupart des gens, parce qu'il existe des exceptions, puisqu'il y a des personnes qui sont latéralisées à droite pour le langage, etc. Enfin, globalement, c'est ce qui est le plus fréquent. Et il va de soi que les territoires mobilisés par la musique diffèrent de ceux mobilisés par le langage. Le langage, c'est les airs de Broca que chacun connaît sur l'hémisphère gauche et qui relèvent aussi du ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est la partie antérieure de notre cerveau, qui se développe très particulièrement au cours de l'hominisation, c'est-à-dire l'évolution des ancêtres de l'homme jusqu'à l'Homo sapiens, qui est apparu il y a à peu près 300 000 ans.
Mais alors, qu'est-ce qu'il en est pour des musiques qui ont des paroles, pour des musiques chantées?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chant grégorien, c'est justement uni les deux, hein, parce que il reprend le texte, hein, en fait, et et associe texte et musique, et peut-être à certains égards, et peut-être plus général même que le langage ou la musique intrinsèquement, c'est une sorte de synthèse, et qui est peut-être la raison de son succès, parce que il est apparu, je sais pas, au 3e, 4e siècle, et s'est perpétué, je dirais, jusqu'à nos jours, si on peut dire. C'est bien par son pouvoir de communication qu'il est intervenu. Aussi, la musique occidentale, d'une manière générale, est issue du chant grégorien. Et même des gens comme Boulez dans Répond fait allusion justement à ce côté fondateur. La polyphonie est venue après le chant grégorien. Donc c'est pour le biologiste, c'est assez intéressant de retrouver en quelque sorte ce qui est aux sources de notre fonction cérébrale qui intervient dans ce qu'on peut appeler la civilisation.
L'organiste Benjamin Allard, dans ce choral de Leipzig, BWV 659, Nun kommt der Heide Heiland, de Jean-Sébastien Bach, on entend bien cette marche, ces pas à la main gauche, ces pas qui avancent comme une marche régulière.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Jean-Sébastien Bach arrive à une espèce de synthèse, qui était incroyablement équilibrée, et qui est évidemment lié à la Renaissance, à la Réforme, comparé au chant grégorien. Il a perdu de sa liberté, mais on arrive à un niveau de rationalité et d'équilibre et d'harmonie entre les parties qui est absolument extraordinaire. Et quand je pense à cette construction qui est née du cerveau de Jean-Sébastien Bach, ça me ramène en tête premier maître Jacques Monod, qui disait quand vous écrivez un article, il faut que il soit écrit comme un sonnet. Je dirais comme un choral de Bach. C'est-à-dire que il puisse atteindre ce niveau de d'organisation, de structure, de cohérence, d'harmonie. Et comme le disait Michel Foucault, après tout, c'est pas simplement un article scientifique, c'est sa vie. Il faut faire de sa vie une œuvre d'art, un choral de Bach.
On entend, Jean-Pierre Changeux, que l'orgue prend une part importante dans votre construction musicale. On entend à l'instant l'organiste Jean Guillou, qui était maître du grand orgue de l'église Saint-Eustache à Paris, dont vous avez suivi le travail assidûment, je crois, Jean-Pierre Changeux. Que recherchez-vous dans une écoute régulière de l'orgue, dans ces harmoniques puissantes?
Ce qui est intéressant, c'est que nous avons là une musique est très romantique par Charles-Marie Vidor, organiste de Saint-Sulpice, déchaînée, si j'ose dire, et très très ouverte, très libre, comparée à cet équilibre qu'on trouve dans Jean-Sébastien Bach. Et c'est gré à Jean Guillou de tenir chaque dimanche après-midi un concert à Saint-Eustache. Et j'y allais très souvent ces dernières années, avant hélas sa disparition. Et pour moi, il y avait dans cette visite dominicale, si j'ose dire, un aspect de réconciliation qui était très intéressant, parce que c'était un public très diversifié, très varié, qui venait. Alors certains restaient pour la messe, d'autres pas. Et donc il y avait en quelque sorte rencontre croyant-incroyant autour de la musique. Et moi, je dirais que c'est quand même des traits que j'ai déjà mentionné un peu, de ce côté de réunir, de réconcilier, rassurer en quelque sorte. Et je pense que les scientifiques ont besoin d'être rassurés, parce que leur travail est très éprouvant, Ils sont toujours en train, non seulement de se remettre en question eux-mêmes, mais de remettre en question aussi le travail des autres, ce qu'on leur dit, ce qu'on ne leur dit pas, et tout ça pour progresser vers une meilleure connaissance du monde. C'est une espèce de volonté intérieure que nous avons de vérité, d'exigence de vérité. Et c'est très éprouvant individuellement, et la musique nous apporte beaucoup de réconfort.
Est-ce que l'orgue tient cette fonction pour vous?
Oui, pour moi, c'est l'orgue, si vous voulez, ça c'est une empreinte hein, en quelque sorte que j'ai reçue quand j'étais enfant et qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui, si j'ose dire, et qui est aussi inscrite dans mes synapses. Et je pense que l'orgue lui-même est aussi un instrument qui a de multiples qualités, d'être à la fois très sensible au jeu particulier, à une voix humaine, par exemple, qui est un des jeux de l'orgue, et en même temps cet déchaînement symphonique qu'on voyait avec Jean Guillou, qui a d'ailleurs été un compositeur qui a magnifiquement illustré la diversité des pièces pour orgue. Donc, à certains égards, je trouve que c'est un instrument complet qu'on n'entend pas suffisamment, à mon avis, sur France Musique. Pour quelle raison, je ne sais pas.
Vous en jouez vous-même, Jean-Pierre Changeux, de l'orgue?
Oui, ben ma mère a tenu à donner une éducation musicale qu'elle n'avait pas elle-même reçue à tous ses trois enfants. Et au départ, elle m'avait mis en présence d'un professeur de piano qui était très exigeant. Et j'avais 4-5 ans, hein, et qui me tapait sur les doigts quand je faisais des fausses notes. Alors, je dois dire que ça m'avait profondément découragé et je voulais plus faire de musique. J'ai trouvé ça inutile et en fait, j'ai quasiment abandonné le piano. Et puis, vers 12-13 ans, j'ai une espèce de retour en arrière et je suis revenu à la musique par l'orgue. Donc, j'ai appris l'orgue avec Noélie Pierron, qui était organiste à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, un élève d'André Marchal, qui m'a communiqué cette à la fois rigueur harmonieuse qui est celle qu'on demande à celui qui joue une œuvre d'orgue, mais aussi qui m'a ouvert à l'art contemporain. Et c'est si j'ose dire, grâce à elle que j'ai pu découvrir Olivier Messiaen, par exemple. Je connaissais l'existence d'Olivier Messiaen auparavant parce que j'avais participé à des réunions organisées par André Jolivet à Aix-en-Provence quand j'avais une vingtaine d'années. Le fait de jouer une œuvre contemporaine difficile permet de la comprendre. Et je pense que dans la musique, que ce soit d'ailleurs Pierre Boulez, Messiaen, Jolivet ou autres, il peut y avoir une approche parfois difficile et décourageante pour l'auditeur. Mais quand on la pratique, on se rend compte de ce que le compositeur a voulu dire, a voulu écrire. Et dans ces conditions, soi-même, on comprend l'œuvre et on l'aperçoit beaucoup mieux. Thank you.
une composition de 1936 d'André Jolivet, incantation pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Ici, Jean-Pierre Rampal à la flûte. Et ces incantations sonnent un peu comme des improvisations à la flûte. Jean-Pierre Changeux.
Oui, deux choses à dire. D'abord, la notion d'incantation. Je pense que c'est très intéressant parce que ça aussi, ça fait appel à notre fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que lorsque l'Homo sapiens est apparu sur Terre, il y a environ 300 000 ans, il est apparu avec un cerveau particulièrement élaboré, plus que ses ancêtres directs, et qui lui permettait de comprendre le monde et d'aborder une certaine forme de compréhension du monde, d'interroger le monde. Un côté projectif du cerveau de l'homme, il projette sur le monde des hypothèses, et au fond le travail du scientifique, et il vérifie si elles sont valides ou pas. Et il est certain que au premier moment de l'apparition de l'humanité sur Terre, l'homme avait un cerveau qui lui permettait de comprendre beaucoup de choses, mais qui ne comprenait pas tout, loin de là, comme d'ailleurs notre cerveau ne permet pas de tout comprendre encore en ce moment. Il y a trop de choses à comprendre et qui restent inconnues. Et dans ces conditions, il s'est mis à inventer des questions-réponses, en quelque sorte. C'est-à-dire, une incantation, c'est une interrogation. Et il se propose d'y répondre. Et c'est là où, si vous voulez, tous les mythes, les religions interviennent. Elles apportent des réponses toutes faites à des interrogations que l'homme se pose. C'est-à-dire sur la genèse, sur l'origine, pourquoi la mort, pourquoi tout ça. Évidemment,
qu'on cherche à élucider.
À l'époque, à ces moments des origines de l'humanité, la réponse n'était pas évidente. Elle l'est de plus en plus. La science nous a permis justement de comprendre le monde. D'où ce côté incantation que je trouve très intéressant. Et alors, Jolivet a choisi la flûte pour justement interroger. Et vous savez que les Chinois, par exemple, avaient ces os oraculaires où ils perçaient des trous et il y avait des craquelures qui se mettaient. Et ils notaient, avec les premiers caractères chinois, pour noter s'il allait pleuvoir, si la guerre allait être gagnée, etc. Vous voyez, ce côté de questionnement constant est vraiment une des propriétés du cerveau d'homme. Et Jolivet a utilisé la flûte parce que c'est une manière pour le sujet d'interroger directement par le son, de questionner. Et la flûte était un instrument que Jolivet préférait parce que ça correspondait à une expression naturelle. Il y avait chez lui un intérêt pour la nature et en particulier pour le cerveau. Et il était très très intéressé par les rythmes naturels. Entre autres, les battements du cœur, la respiration, le sexe, les rythmes cérébraux variés. Et il essayait, en fait, dans sa musique, d'utiliser enfin, certains de ces rythmes endogènes pour, justement, être en résonance entre la composition musicale et le corps de celui qui reçoit le message musical et donc contribuer à créer des émotions chez l'auditeur. Donc, il a créé ce centre d'humanisme musical pendant deux ans qui a été pour moi une expérience extrêmement intéressante. Alors, pour en revenir aussi à cette mélodie qui est extraordinaire, qui a un côté improvisé, mais qui est une complainte, une demande, une interrogation qui ne cesse pas, il y a l'aspect mélodie qui intéressait aussi beaucoup Jolivet. Et ce qui est une des caractéristiques de la musique, c'est que, évidemment, elle se développe dans le temps, comparée à la peinture, à la sculpture, etc.
D'autant plus quand c'est un instrument seul.
Oui, et alors là, il avait fait un concours. Il avait fait un concours de mélodies auquel j'ai participé. Bon, il se trouve qu'il avait trouvé mes mélodies intéressantes, mais alors j'ai demandé mais pourquoi elle est plus intéressante. Alors, ce qu'il a fait, il a pris la mélodie, il a fait l'accord sur le piano avec le développement dans le temps de la mélodie et montrer à quel point une bonne mélodie, une mélodie qui contient une harmonie intrinsèque. Et donc ça, c'était aussi une de ces manières intéressantes d'analyser la musique et ces cours étaient particulièrement instructifs pour nous tous.
Comme quoi notre cerveau fait un chemin de composition, d'harmonisation lorsqu'il entend une composition pour instrument seul.
Ah oui, 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 oui. Thank you.
regard de l'esprit de joie, l'un des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Yvonne Loriot est au piano.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous avez rencontré Olivier Messiaen, Jean-Pierre Changeux. Avez-vous pu échanger d'ailleurs sur vos travaux?
Absolument.
Sur le chant des oiseaux à cette occasion?
Oui, j'ai rencontré Olivier Messiaen à plusieurs reprises. D'une part à l'Orgue de la Trinité, parce que je lui demandais des conseils pour interpréter certains de ses œuvres. J'ai rencontré à Bagnoul-sur-Mer, au laboratoire de biologie marine, et il venait noter des chants d'oiseaux à la Massane, qui était une petite montagne qui est après de Bagnoul.
Et vous, de votre côté, vous aviez travaillé sur les capacités d'apprentissage du chant chez les oiseaux,
spécifiquement. Oui. Enfin, j'ai fait effectivement un modèle comment des ensembles de neurones peuvent apprendre à organiser les sons dans l'espace. Avec Stanislas Dehaene, nous avons fait un modèle d'acquisition d'apprentissage du chant et sur un mode de sélection, si je veux dire darwinien, au niveau des synapses de notre cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que Messiaen a beaucoup utilisé dans sa musique les chants d'oiseaux. D'ailleurs, on les reconnaît un petit peu dans ce magnifique pièce, une des chefs-d'œuvre des Vargas. Et on a le sentiment que, comme le disait d'ailleurs Pierre Boulez, en fait, il fait des chants d'oiseaux Messiaen. C'est-à-dire que c'est presque Messiaen qui chante. Parce qu'il retranscrit effectivement les chants d'oiseaux et il reprend des rythmes naturels, mais en même temps, il y ajoute évidemment tout son génie et tout son talent. Donc, le compositeur sait à la fois s'inspirer des faits de nature, hein, si j'ose dire, on parlait
de rythmes endogènes,
des jolivets, etc., et des rythmes endogènes, et je pense que à certains égards, on retrouve ça aussi chez Stravinsky dans le Sacre du Printemps et dans la danse sacrale où il y a quand même une importance de ce monde naturel chez les compositeurs, et ça peut-être que on le dit pas suffisamment. Ils sont très imprégnés et inspirés par tout ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient autour d'eux. Et ils le retranscrivent et en nous le communiquant, ils nous font vivre en quelque sorte cet environnement.
Messiaen fonctionnait également par synesthésie.
Oui, alors j'ai rencontré
en
Israël quand nous avons partagé, si j'ose dire, le prix Wolf en 1983. Et lui pour la musique, et puis moi c'était pour la médecine. Et on s'est parlé beaucoup pendant une semaine, et je m'intéressais beaucoup à la manière dont son cerveau pouvait fonctionner pendant qu'il composait, qu'il écrivait ces magnifiques pièces. Hein. Et là, c'est là où il m'a laissé comprendre qu'il voyait, quand il composait, les choses en couleur. Comme un espèce de vitrail transitoire qui bouge, qui évolue dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler, non pas un déficit cérébral, mais enfin, disons, un problème de connectivité cérébrale, qui est la synesthésie, où les sons musicaux évoquent des couleurs et réciproquement, où même on connaît le fameux A, B, etc., que les lettres peuvent aussi, comme Rimbaud là, proposés peuvent évoquer des couleurs. Donc c'est un processus cérébral assez intéressant, et je ne dis pas que c'est ce qui explique son talent, mais enfin disons que c'est ce qui peut aussi contribuer à cette diversité de couleurs qu'on retrouve par exemple dans ce 20 regards où d'un moment à l'autre on se trouve devant un espèce de feu d'artifice de rythme et d'harmonie. Donc, à cet égard, Messiaen s'intéressait très clairement à la manière dont fonctionne notre cerveau, je le pense.
Thank you.
L'andante du premier sextuor de Johannes Brahms, Isaac Stern et Alexander Schneider au violon, Milton Caltims et Milton Thomas à l'alto, Pablo Casals et Madeleine Follet au violoncelle, Jean-Pierre Changeux. Écoutez, ce sextuor de Brahms s'est replongé, je crois, dans vos années d'études, car, vous m'avez dit, Jacques Monod
oui,
jouait
ça correspond
ce sextuor.
À ma thèse de doctorat d'État, ça correspond... c'est un grand moment de bonheur, d'échange que je pouvais avoir. Alors que, si vous voulez, au départ, ce sujet de thèse sur la régulation au niveau moléculaire m'intéressait personnellement. Jacques Monod, il était peu attentif. Il avait d'autres préoccupations. Il travaillait avec François Jacob sur la régulation d'expression des gènes, etc. Et donc, j'y tenais beaucoup à ce sujet. Et progressivement, résultat après résultat, il a commencé à s'intéresser à mon travail. Et le dialogue, à ce moment-là, s'est développé. Et c'était un moment très, très exaltant. Et Jacques Monod
était
musicien, violoncelliste, justement. Et quand je travaillais dans le laboratoire, je fredonnais un petit peu. ce Brahms lui-même reprenait, donc c'était un moment extraordinairement sympathique. C'est le moment où j'ai rencontré ma femme, où la famille s'est créée, et aussi, disons, de bonheur personnel. Et pour moi, ça va avec aussi la notion de beauté, de beau, hein, qui est une des notions les plus difficiles à définir qui soit, mais que...
Pourriez-vous tenter la définition ou
oui,
du
enfin,
moins, arrivons-nous à localiser un endroit du cerveau qui serait stimulé par ce type de musique? Est-ce qu'il y a une forme de récompense, peut-être?
Oui, ça c'est évident que ce que l'on qualifie de beau, c'est, pour Diderot, ce qu'il appelait la perception des rapports, des relations entre les parties, c'est-à-dire l'accord des parties au tout, qui est ce qu'on appelle le consensus partium, qui pour lui est une des caractéristiques avec Alberti aussi, à la Renaissance, de ce qui fait ce qu'on dirait le beau. C'est, je le vois, moi, comme une mobilisation assez générale de l'ensemble du cerveau. C'est pour cette raison que ça a un tel pouvoir émotionnel, c'est-à-dire que ça met consciemment en relation divers territoires, multiples territoires qui du cortex cérébral, qui eux-mêmes agissent au niveau des systèmes de neurones intervenant dans les émotions et dans les récompenses en quelque sorte, et qui associent donc ce côté organisation dans le temps de son avec la production, disons, de neurotransmetteurs comme la dopamine qui crée ce sentiment de bonheur, de récompense, de joie, etc. Mais d'un autre côté, si vous demandez à Boulez ce qu'est le beau, il ne prendra pas cette définition comme qui est, disons, une définition assez classique, qui, sur le plan de la compréhension que nous avons, qui est encore extrêmement modeste de nos fonctions cérébrales dans l'écoute de la musique, qui j'espère d'ailleurs vont progresser dans les années à venir, et ce que nous en connaissons est quand même un peu frustrant, parce que je pense que c'est en accord avec ce que je viens de dire, mais si on veut satisfaire Boulez, ça marchera pas. Parce que pour lui, tout est dans un codage recréé qu'il essaye de reprendre et de projeter aussi vers un univers qui est entièrement nouveau. Donc pour lui, cette notion de beau classique ne l'intéresse pas tellement.
C'est la nouveauté qui crée
l'émotion.
Oui,
c'est un aspect, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect consensus partium, mais évidemment, l'aspect nouveauté est très important. C'est-à-dire que si on répète toujours la même rengaine, à la fin, c'est pas beau du tout. Et donc, il y a ce renouvellement, et Boulez nous propose ça. Et dans, je pense, certaines pièces comme répond, il va nous créer un autre univers dans lequel nous allons participer et au moins adhérer.
« Et du reste, à part quelques sur le théâtre ou dans l'opéra, donc où là il y a par exemple un texte où la subjectivité est très dirigée parce qu'il y a malgré tout des événements qui se passent. Donc ces événements, on ne peut pas les comprendre autrement que la façon dont ils vous sont présentés. S'il y a, je ne sais pas, une scène de jalousie, une scène de meurtre, c'est une scène de jalousie, une scène de meurtre, et la musique est orientée dans ce sens-là. Le théâtre vous oblige pratiquement à comprendre la musique d'une certaine façon. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de la musique pure, comme on l'appelle, c'est-à-dire la musique sans non théâtrale. Là, les interprétations peuvent diverger, quoi qu'il y ait, disons, une assise culturelle qui, quand vous entendez la pastorale de Beethoven, vous ne pensez pas à la guerre, certainement. Mais dans des musiques qui sont beaucoup moins orientées, plus vagues, si vous entendez, par exemple, un quintet de Brahms, ou une des sonates de Debussy et de la fin, vous n'avez pas l'imagination, disons, orientée dans un certain sens. Et je crois que c'est la richesse de la musique, c'est que le compositeur, au fond, vous propose, et je crois que Valéry disait à propos d'un poème, du reste du poème, c'est que le compositeur propose, mais l'auditeur dispose, finalement. Et c'est ça qui fait la richesse de la musique, c'est que l'imagination de chacun est orientée suivant son propre désir.
Thank you.
Jean-Pierre Changeux, vous avez donc longuement échangé avec Pierre Boulez. On l'entendait à l'instant, un extrait d'un entretien que vous avez eu avec lui sur France Culture.
Absolument.
Et puis le livre « Les neurones enchantés », l'un des fruits de cette relation amicale. Et vous cherchez à comprendre son geste de composition. Boulez recherchait la nouveauté, disait-il, par nécessité biologique.
Oui, et l'ouverture aussi, c'est-à-dire que il y a un côté génératif dans la musique de Boulez qui est intéressant dans Répond. Il fait intervenir l'ordinateur qui lui-même reprend des éléments qui ont été produits par les exécutants qui se trouvent dispersés dans la salle et reconstruit d'une manière nouvelle et inattendue presque pour chaque exécution est différente de la précédente. Il y a un côté un peu très vivant. Je ne sais pas si ça se perçoit dans cette musique qu'il lui-même voulait, enfin auquel il tenait beaucoup. Et à cet égard, c'est un compositeur évidemment très original. Hein.
Est-ce que ce besoin de nouveauté qu'exprimait Pierre Boulez ne vient pas en contradiction avec ce qu'on échanger avant, ce qu'on se disait avant, que le cerveau a quand même besoin de familier pour être rassuré.
Oui, ce n'est pas du tout en contradiction, c'est complémentaire, si j'ose dire, parce que en même temps, je disais que pour le scientifique que je suis, qui est soumis en permanence à des questionnements difficiles, il y a des moments où la musique nous rassure. Mais Boulez fait partie, en quelque sorte, du questionnement scientifique lui-même. Je pense qu'il agit là un petit peu. C'est pour ça qu'on s'entendait relativement bien. Il agit comme scientifique. Enfin, il se projette, il anticipe, puis il nous propose de nouveaux mondes, en quelque sorte.
Mais est-ce que le cerveau a un besoin physiologique de nouveautés pour relancer son intérêt ?
C'est pas qu'il en a besoin, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le cerveau a une activité spontanée, il ne s'arrête jamais, même la nuit, quand nous rêvons, notre cerveau est actif. Et je parlais de cet aspect projectif, hein, quand nous évoquions les incantations, en quelque sorte, et je pense que à cet égard, Boulez fait œuvre de scientifique, enfin, il nous propose un nouveau monde, un nouvel univers musical, sensoriel. Il suscite notre imagination et je pense que en tant que scientifique, nous avons aussi à contribuer à cette évolution du monde, à le comprendre et dans l'état actuel de nos sociétés, à essayer d'anticiper des drames qui risquent d'intervenir et auxquels nous nous sentons responsables. Donc il faut en permanence se questionner, ne jamais être en repos. Donc il va dans ce sens-là. Ça fait aussi peut-être partie de la vocation de la musique, qui, comme je le disais tout à fait au départ, fait partie des toutes premières civilisations de l'Homo sapiens.
Thank you.
la danse sacrale qui cloue le sacre du printemps d'Igor Stravinsky, ici interprété par Pierre Boulez à la tête de l'orchestre de Cleveland. Je crois que Jean-Pierre Changeux, vous n'avez peut-être pas rencontré Igor Stravinsky, mais du moins, vous l'avez vu sur scène.
C'est une expérience très émouvante que j'ai eue lors de mon stage de postdoctorat à Berkeley, à l'université de Berkeley aux États-Unis, en Californie. Et il se trouve que à l'Opéra de San Francisco, il était annoncé le sacre du printemps en présence de Stravinsky lui-même. Alors évidemment, nous y sommes allés et le sacre lui-même était exécuté sous la direction de Kraft, qui était un excellent chef d'orchestre, brillamment, avec toute sa sauvagerie, sa violence. Et ensuite, à la fin, est arrivé un petit monsieur sur le devant de la scène, qui a été introduit comme étant Igor Stravinsky lui-même. Et je dois dire que pour moi, c'était extraordinaire de se dire que le cerveau de ce petit personnage qui arrivait sur scène avait produit un tel chef-d'œuvre, et quand il avait 29 ans, c'est vrai qu'il était beaucoup plus jeune, et avec cette violence, cette énergie, cette vitalité, alors là, je pense que on est en pleine vigueur, j'ai posé la question à mon voisin, tu ne crois pas que c'est quand même plus extraordinaire ce que nous ne ferons jamais comme scientifiques? Il me dit non, pourquoi tu dis ça? En fait, je reste fidèle à l'idée que c'est quand même une extraordinaire production, et il s'est assagi avec les années, et en quelque sorte, en réponse au rite païen du russe du sacre, il nous offre une symphonie de psaumes qui conserve quand même beaucoup de traits de la plume de Stravinsky, et où il s'est assagi et qui est beaucoup plus apaisante et qu'il dirigeait lui-même. Donc c'était très émouvant de le voir face à sa propre musique.
Et on touche là au questionnement que nous avions auparavant, à savoir, faut-il de la nouveauté pour renouveler la musique, renouveler l'attention de l'auditeur? Faut-il rester dans le tonal ou sortir de la tonalité, comme l'avait fait à l'époque Schoenberg, ou comme l'avait fait aussi à sa suite Pierre Boulez?
Stravinsky n'a pas hésité à revenir en arrière par moments, à retrouver une espèce de néoclassicisme, où il est d'ailleurs tout à fait remarquable. Et je pense que à cet égard, le compositeur a plus de liberté que le scientifique, parce que nous sommes tenus à une évolution historique de la science. Le compositeur, lui, il vit aussi notre histoire, mais il l'éprouve à un moment d'une certaine manière, à un autre d'une autre, et il nous fait part de ce qu'il perçoit. Et je pense que à cet égard, il y a un message dans l'œuvre d'art. C'est pas simplement une construction. C'est une conception, et on revient à nos premières définitions, qui émeut, qui touche, et qui, j'espère, quand même, réunit.
Oui. Lors de ses échanges avec Pierre Boulez, il y a une citation qui m'a marquée. Il dit « On n'invente rien du tout, on ne fait rien d'autre qu'épuiser sa mémoire ». Il dit ça au sujet de l'acte de composition.
Oui.
Dit-il en quelque sorte que le champ de la nouveauté est limité?
Oui, et aussi inventer l'inattendu. Ça, c'était aussi un des mots de Pierre Boulez, ce qui veut dire que il y a un côté génératif de notre cerveau qui, d'ailleurs, produit l'immensité du langage, hein, et la diversité et la nouveauté, et qui existe aussi dans la musique, justement. Dans les peintures préhistoriques que l'on voit à la grotte Chauvet. C'est-à-dire que ça, c'est quand même une disposition propre au cerveau de l'homme d'accéder à la fois au langage parlé et au langage musical et aussi au langage pictural, en quelque sorte. Et arriver à créer des abstractions, abstraire et à signifier, et donner, en quelque sorte, de l'ordre au monde, créer un ordre nouveau pour le monde en cours. Donc, c'est peut-être une des vocations que nous avons en commun, disons, les artistes et les scientifiques.
Retour à François Couperin pour clore cette émission avec vous, Jean-Pierre Chejeux. C'était la troisième leçon de ténèbres pour le mercredi saint, dans l'enregistrement effectué par Montserrat Figueras, Maria Christina Kir, Jordi Savall, Pierre Antaille et Rolf Lislevande. J'aimerais citer à nouveau Pierre Boulez, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Chejeux, qui disait au sujet de la musique baroque qu'il s'agissait d'une grande excitation qui lui paraît être une espèce de refuge vis-à-vis d'une période contemporaine que l'on juge folle et incompréhensible. Est-ce que la musique baroque est un refuge pour vous ?
C'est un réconfort, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, comme nous avons essayé de le dire au cours de cet entretien. Je ne vais pas contredire Boulez, mais je vais trouver dans la musique baroque une émotion qui, en l'occurrence, avec François Couperin, est pour moi unique, puisque dans ces leçons des ténèbres, c'est en quelque sorte une méditation sur notre mort. Une question qui ne se pose pas nécessairement en ces termes pour le scientifique que je suis. Pour le scientifique, la mort fait partie de l'évolution, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'évolution, nous ne serions pas sur Terre s'il n'y avait pas eu d'autres espèces qui avaient une durée de vie illimitée pour que d'autres prennent le relais. Donc la mort est une nécessité, mais elle est évidemment très difficile à accepter, mais pour le scientifique, ça fait partie d'une loi de la nature en quelque sorte. Mais notre mémoire, celle des autres, de notre société, de notre vie, est toujours présente. Et ce qui est intéressant dans cette leçon, c'est les ténèbres, c'est que il s'agit d'une méditation sur la destruction de Jérusalem, aussi de l'isolement du Christ avant sa mort, et après tout peut-être notre situation que nous aurons à vivre le jour où ça arrivera nécessairement. Et il est intéressant que à l'occasion de cet office, les lumières qui étaient allumées s'éteignent les unes après les autres, et ça se termine dans la paix. Que demander de mieux ?
Nous n'avons pas assez d'1h30, Jean-Pierre Changeux, pour faire le tour de votre discothèque, du répertoire qui a marqué vos recherches, et puis comprendre enfin le fonctionnement musical de notre cerveau. J'en réfère évidemment à vos différents livres, et notamment ce livre d'entretien que vous avez eu avec Pierre Boulez et Philippe Manoury, « Les neurones enchantés, le cerveau et la musique », ainsi qu'un livre « La beauté dans le cerveau », tous deux parus chez Odile Jacob. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à ce Musique et moi, Philippe Mercher à la technique, Marie Groux à la réalisation, Marie Ferdinand et Nelly Portal pour la préparation et pour la mise en ligne. Passez un très bon dimanche sur France Musique, bien évidemment. Et à la semaine prochaine, 11h, Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.